Le débat du jour. Adrien Delgrange.
Eh bien bonsoir et bienvenue à tous. C'est le principe fondamental de notre démocratie française, autrement dit la séparation des pouvoirs législatifs, exécutif et judiciaire. Et pourtant, régulièrement, nombreux sont les hommes et femmes élus de notre pays à dénoncer une collusion entre la justice et le politique. Dernière illustration en date, la perquisition houleuse il y a quelques jours au domicile de Jean-Luc Mélenchon et au siège du parti politique qu'il dirige, la France Insoumise. Aux yeux de la Constitution de notre pays, article 64, la justice est indépendante, comme l'a rappelé Emmanuel Macron.
Nous avons une Constitution, elle est claire. L'autorité judiciaire est indépendante dans notre pays et j'en suis le garant. Pour tout le monde. Et n'en déplaise à certains, il n'y a pas d'exception.
Le président français la semaine dernière à Bruxelles et pourtant, Jean-Luc Mélenchon dit le contraire. Il y voit même la main d'Emmanuel Macron dans les perquisitions qu'il a subies la semaine dernière.
Et je dis à Monsieur Macron, qui hier a répondu que la justice était indépendante, je suis obligé de lui dire que l'usage qu'il en fait ne le prouve pas. Parce que tous les responsables politiques savent qu'un procureur qui agit dans le cadre d'une enquête préliminaire n'est pas un procureur indépendant. Ce n'est pas vrai. Donc c'est bien un ordre politique qui a été donné puisqu'il savait que cette intervention aurait lieu.
Et avant Jean-Luc Mélenchon, citons Marine Le Pen, François Fillon, Nicolas Sarkozy ont un jour eux aussi dénoncé le rôle du politique dans les décisions de justice qui les concernaient. Alors, la justice française est-elle indépendante ou aux ordres de l'exécutif? Telle est la question que nous nous posons ce soir sur RFI.
RFI.
Dans les studios de Radio France Internationale à Paris, Paola Forteza, bonsoir, bienvenue.
Bonsoir.
Vous êtes députée La République En Marche, élue de la deuxième circonscription des Français de l'étranger et membre de la Commission des lois. En face de vous, Éric Halt, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes magistrat, vice-président d'Anticor, Anticor association qui lutte contre la corruption et qui milite pour l'éthique en politique. Alors première question, je me tourne vers vous, Paola Forteza. A-t-il eu raison Jean-Luc Mélenchon lorsqu'il dit qu'un ordre politique a été donné pour les perquisitions qu'il a subies la semaine dernière?
Pas du tout. La garde des Sceaux, en l'occurrence, est là pour donner les grandes lignes de l'administration de la justice. Mais dans aucune façon, elle intervient dans des cas particuliers. Et ce, depuis 2013, depuis la loi de l'indépendance de la justice. En l'occurrence, elle n'était même pas au courant de cette perquisition. La procureure générale de la Cour d'appel de Paris l'a encore rappelé il y a quelques jours. Elle l'a appris à la télé, comme nous tous. Voilà, cette perquisition avait aussi été validée par un juge des libertés. Donc il n'y a aucun doute que cette perquisition a été faite en toute indépendance.
Alors, qu'en pensez-vous, Éric Halt?
Oui, le code de procédure pénale prévoit que le garde des Sceaux ne peut pas donner d'ordre dans des affaires particulières. Oui, le code de procédure pénale prévoit même que le ministère public, le parquet, exerce l'action publique en toute impartialité. Mais je regarde aussi ce que dit la Cour européenne des droits de l'homme et la Cour de cassation. Dire le parquet n'a pas l'indépendance et l'impartialité nécessaires pour être une autorité judiciaire. Je regarde ce que dit le Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel dit le parquet a une indépendance qu'il doit concilier avec les prérogatives du pouvoir. Et donc, même si il n'y a pas d'ordres qui ont été donnés de façon explicite, il y a le poison du soupçon. Et évidemment, comment dans une action politique aussi importante pourrait-il ne pas y avoir de soupçon? J'ajoute qu'on est dans le cadre d'une enquête préliminaire, on n'a pas saisi de juge d'instruction, et dans le cadre d'une enquête préliminaire, on saisit des documents confidentiels d'un parti politique d'opposition, et je trouve que ça pose un autre problème constitutionnel, parce que les partis, on peut en avoir une mauvaise opinion, mais les partis ont un rôle inscrit dans la Constitution, ils exercent leur action librement, et à partir du moment où le parti au pouvoir a des informations, que d'ailleurs ils distillent, puisqu'on a commencé à connaître par Mediapart notamment certains éléments qui ont été découverts, à partir du moment où le parti au pouvoir a des informations qu'il distille et qu'il peut mobiliser en sa faveur, c'est un vrai problème constitutionnel et un vrai problème démocratique.
Paola Forteza.
Alors, je crois que bon, il y a eu des appels au complot. Je ne crois pas qu'il y ait, un complot entre le gouvernement et Mediapart. Ça serait un peu tiré des cheveux. Je crois vraiment que les attaques qui ont eu lieu, et nous sommes beaucoup à aller dans ce sens, ne vont pas dans le sens d'une démocratie solide. Je crois que voilà, les attaques contre les magistrats, contre la police, contre les médias n'aident pas à rehausser le débat. Il faut vraiment qu'on revienne dans le fond du sujet. Et je crois aussi que le gouvernement propose des réformes qui, c'est justement le sort que cette réforme constitutionnelle qu'on attend tous a été retardée justement par les personnes qui aujourd'hui font ces appels.
Cet été, à l'occasion de l'affaire Benalla.
Exactement.
Et remise au goût du jour en janvier prochain.
Exactement. Et qui, nous pourrons peut-être les détailler plus tard, mais qui met sur la table des propositions justement pour aller vers une indépendance de la justice plus importante. Donc,
on va y revenir. Moi, ce que j'aimerais comprendre aussi avec vous, c'est comment vous analysez finalement cette arme un petit peu suprême de la victimisation d'hommes et femmes politiques empêtrés dans des affaires de justice. Comment expliquez-vous qu'ils utilisent tous, de tous bords confondus, cet argument de la non-indépendance de la justice pour se défendre ?
C'est très classique, mais en même temps, c'est fondé. Donc comment, alors que la justice est ce qu'elle est aujourd'hui, et je l'ai rappelé tout à l'heure, comment pourrait-il ne pas mobiliser cette arme-là ? L'enjeu, mais ça fait déjà 20 ans qu'on en parle, mais l'enjeu c'est effectivement d'apporter des réponses qui interdiront dans l'avenir ce type d'argument de victimisation.
Mais je crois que voilà, les formations politiques ont eu affaire à ce genre d'enquêtes et de perquisitions. Encore en octobre 2017, le MoDem, le siège du MoDem avait été perquisitionné. Nous avons eu des visites judiciaires aussi dans le QG à En Marche. Donc je crois que ce n'est pas la bonne façon de voir les choses, vraiment.
Attaque directe également contre la justice. Je me tourne aussi vers vous, Eric Halt, qui est magistrat. Est-ce à dire que les magistrats ne feraient pas bien leur travail ?
Non, je crois que les magistrats font leur travail, et je crois que les magistrats du parquet font leur travail, mais ce qu'il faut savoir, effectivement, c'est qu'il y a d'une part un problème avec le statut du parquet, et il y a aussi un problème avec le statut des officiers de police judiciaire. Quand le parquet décide de mobiliser 100 officiers de police judiciaire sur une perquisition, évidemment il le fait avec l'aval du ministère de l'Intérieur, et les officiers de police judiciaire qui obéissent au parquet, dans l'exercice de leurs fonctions, ben, ils sont aussi statutairement dépendants du ministre de l'Intérieur. Et donc des remontées d'informations qui se font sous la forme de rapports au ministère de la Justice, éventuellement de rapports succincts, sont des remontées beaucoup plus fluides et beaucoup plus larges au ministère de l'Intérieur.
Alors, s'il faut bien comprendre, hein, que vous parlez de c'est une enquête préliminaire là qui concerne Jean-Luc Mélenchon, ne permet pas d'avoir accès au dossier. Parfois, il y a des atteintes aussi au secret de l'enquête. Par la presse elle-même, comme très souvent, je pense aussi au cas François Fillon pendant la présidentielle il y a peu de temps, ou encore là dans le cas donc de Jean-Luc Mélenchon, à ce moment-là, ce sont pas des magistrats qui violent eux aussi l'indépendance de la justice. Alors, en communiquant des informations à la presse.
Je tiens à dire, je n'en veux pas du tout à la presse qui a une information, qui la vérifie et qui la donne au public. En revanche, il y a dans l'appareil d'État, et ce sera sans doute assez difficile à le retrouver, mais dans l'appareil d'État, quelqu'un qui viole la loi, ou peut-être plusieurs personnes qui violent la loi, parce que la violation du secret de l'enquête est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende, sans compter qu'il s'agit aussi d'un grave problème déontologique.
Vous le confirmez, Paola Forteza, députée de La République En Marche.
Je suis absolument d'accord avec ça, et il faudra poursuivre les personnes qui ont fait ces actes-là. Et encore une fois, la presse n'en est pour rien, et je crois totalement à la dépendance de la presse.
Le débat du jour sur RFI. Adrien Delgrange.
Avec ce soir Paola Forteza, députée La République En Marche, Eric Halt, vice-président d'Anticor. Alors parquet ou siège, réforme constitutionnelle également à venir, hein. Les magistrats du siège, ce sont les juges classiques qui prononcent le jugement, qui disent le droit en appliquant la loi après avoir entendu les différentes parties au procès. Et les magistrats du parquet, on l'appelle également la magistrature debout, car ils se tiennent debout, ou encore le ministère public. Dites-nous vers quoi va cette réforme constitutionnelle exceptionnel pour éviter finalement ces attaques de Jean-Luc Mélenchon à l'égard de la justice, Paola Fortesin.
Alors, une des grandes mesures que nous allons mettre en place dans cette réforme, c'est justement que les avis du CSM lors de la nomination de ces magistrats soient conformes. Donc, il faille obligatoirement les suivre. Donc ça, c'est vraiment très important. Et nous avons aussi d'autres genres de mesures qui vont dans le sens de d'enlever une certaine exception des pouvoirs en place, par exemple par rapport au régime judiciaire lié aux ministres, où les ministres iraient de plus en plus vers des régimes pour les justiciables comme tout le monde, disons. On veut aller vers ce sens-là. On veut aussi éliminer le droit qu'ont les présidents de siéger à vie dans le Conseil constitutionnel. Donc toutes des mesures qui vont dans le sens de une justice plus indépendante. Nous avons aussi, il y a quelques semaines, travaillé sur la question du verrou de Bercy. C'est-à-dire d'enlever un certain monopole qu'avait l'administration fiscale sur les poursuites de fraude fiscale. Donc ça aussi, je sens que ça va dans le bon sens, dans le sens de donner plus de confiance aux citoyens dans la justice. Et c'est progressif, ça s'améliore depuis quelques années et il faudra encore travailler et il faudra encore améliorer au fur et à mesure.
Citons également le PNF, le Parquet National Financier, créé depuis l'affaire Cahuzac. Votre point de vue sur cette réforme de la justice.
Je voudrais revenir sur ce qui est proposé pour le parquet. C'est un petit pas en avant, un très petit pas en avant, puisqu'effectivement, aujourd'hui, le Conseil supérieur de la magistrature donne un avis consultatif. Désormais, on devra tenir compte de cet avis. Mais ce sera toujours le garde des Sceaux qui choisit les membres du parquet, qui choisira les procureurs. Ceci ne change pas.
Et donc, pourquoi pas le chef de l'État qui serait juste au-dessus de la garde des Sceaux.
On a vu, effectivement, mais on a commencé par une citation d'Emmanuel Macron. On a dans la Constitution un vrai problème de confusion des pouvoirs lorsque il est inscrit que le chef de l'État garantit l'indépendance de la justice. C'est une confusion des pouvoirs qui remonte à 1958 avant que le chef de l'État ne soit élu au suffrage universel. Mais c'est d'une certaine façon une aberration. Donc là déjà il y a un problème. Dans la façon dont les magistrats du parquet sont nommés, il subsistera ce problème. Je rappelle que les magistrats du siège, eux, chefs de cour, chefs de juridiction, sont nommés uniquement par le CSM. Ce n'est pas le garde des Sceaux
supérieur de la magistrature.
Et par ailleurs, il y a un problème non négligeable qui est celui des officiers de police judiciaire. Moi, je ne préconise pas le rattachement des officiers de police judiciaire au ministère de la Justice. Mais dans certains cas, ce serait quand même bien que statutairement, ils ne dépendent pas autant qu'aujourd'hui du ministre de l'Intérieur. Auxquels, effectivement, ils doivent beaucoup d'informations, dans certains cas.
Paola Fortesin.
Je crois que c'est un équilibre qu'il faut trouver. Je crois que c'est aussi sain que l'organisation générale de l'administration de la justice soit menée par une personne qui est élue démocratiquement, qui puisse donner les grandes impulsions, les grandes priorités. Mais pas du tout en rentrant dans les détails, dans les enquêtes, en donnant des ordres particuliers. Voilà, on reste dans le grand ordre des choses et je trouve qu'il faut trouver cet équilibre.
Seriez-vous favorable à cette idée de tirage au sort des magistrats pour siéger au parquet ?
Alors, il faudrait expérimenter. Moi, je suis d'accord sur la question de l'expérimentation. C'est une idée intéressante. Faudrait vraiment la creuser.
Éric Halte.
Mais en tout cas, je ne serais pas hostile à ce que le Conseil supérieur de la magistrature, étant ce qu'il est, avec des personnalités extérieures nommées dans des conditions que l'on peut discuter, avec une surreprésentation hiérarchique des magistrats, des hauts magistrats, je ne serais pas hostile à ce que, au moins pour le Conseil supérieur de la magistrature, on expérimente le tirage au sort.
Jean-Luc Mélenchon a aussi proposé la semaine dernière de pouvoir récuser un juge lorsque l'on est incriminé. Qu'en pensez-vous ?
Ça, on le peut déjà. Lorsqu'on pense que le juge ne manifeste pas suffisamment d'impartialité, on peut le récuser. Mais là, la question était un peu plus particulière, c'était de dire « je veux que l'affaire soit dépaysée », c'est-à-dire que l'affaire qui est traitée par le parquet de Paris soit dépaysée dans une autre juridiction. Donc effectivement, cette procédure elle existe, il est possible de la mettre en œuvre. Je pense que son avocat serait plus judicieux à demander qu'un juge d'instruction soit saisi. Parce que là, du coup, il aurait accès au dossier, il pourrait critiquer les actes de procédure qui, selon lui, sont illégaux.
Sur la récusation, Paola Forteza.
Moi, je crois voilà, que c'est beaucoup plus intéressant de passer par des voies de recours ex post si on sent que son cas a été mal traité, mal géré, que d'attaquer frontalement dans les médias et de faire un cirque médiatique autour d'une affaire de ce genre, bien sûr.
Juste avant de conclure, dites-nous pour vous, quelles seraient les grandes lignes d'une future indépendance de la justice? On nous parle d'une réforme et à la fois on a l'impression que cette non-indépendance soupçonnée par les plaignants et les victimes est inhérente à notre société. Est-ce que vous pensez qu'après cette réforme en janvier, on ne parlera plus de collusion?
Alors, je pense que c'est un grand premier pas, mais nous travaillons aussi à cette confiance des citoyens dans nombreux autres domaines. Nous avons aussi une réforme de la justice qui approche, où on travaille sur l'accessibilité de la justice, où on travaille sur la simplification des démarches, sur la transparence, sur l'open data des décisions de justice. Donc, il y a nombreux champs de travail là-dessus. Nous aussi, en tant que parlementaires, on doit travailler à retisser ces liens de confiance avec les citoyens. La confiance ne viendra pas seulement de réformes institutionnelles, mais d'un changement de pratiques concrets au quotidien.
Éric Alta.
C'est sûr, c'est un enjeu culturel. Il y aura un petit pas, un très petit pas en avant si la réforme est ce qu'on nous annonce. Au-delà, je pense qu'il faudra refonder le ministère public. Monsieur Nadal, aujourd'hui président de l'autorité de transparence de la vie publique, a commis un rapport sur ce sujet. On serait bien inspiré de suivre ces propositions parce qu'aujourd'hui, on est dans une situation finalement où le parquet est un peu dans un état de coma dépassé. C'est-à-dire M. Nadal qui parlait d'un état de coma dépassé il y a quelques années. On revient à ce stade aujourd'hui et nous avons cruellement besoin d'une évolution fondamentale sur ce point.
C'est pour cela aussi que c'est une des grosses priorités, la justice, dans le budget depuis cette nouvelle mandature.
Toute dernière question, j'aimerais savoir avec vous si cette justice ou pas dans notre pays, pour qu'elle soit peut-être plus impartiale, qu'elle puisse être rendue par une forme d'intelligence artificielle. Est-ce que pour vous, elle doit toujours être rendue par un être humain ou pas?
Alors, moi, je crois qu'il peut y avoir des outils d'aide à la décision à travers le numérique, qu'il peut y avoir aussi plus de transparence vis-à-vis des citoyens avec ces outils. C'est un dossier que je traite et que je travaille beaucoup au niveau de l'Assemblée. Et moi aussi, je mets mes comptes publics en open data, je mets mon agenda en open data. Donc, je crois vraiment que le numérique peut aider à aller dans ce sens. Mais de là à aller à une justice prédictive, non, il faudra toujours quelqu'un qui puisse superviser ces fameux algorithmes et donner le dernier mot.
Absolument. Les algorithmes ne sont pas indépendants. Ils sont construits et conçus par des hommes et il faudra toujours contrôler ces algorithmes. On aura des avocats et des juges éventuellement augmentés qui auront une aide à la décision, mais on ne pourra pas se passer de décisions individuelles, bien évidemment, et de l'humain, bien évidemment.
Et enfin, en parlant d'actualité, très prochainement, nous allons évoquer le remplacement du procureur de Paris, François Molins, en place depuis 7 ans. Il doit quitter le parquet de la capitale au plus tard en novembre pour la Cour de cassation. Cela fait déjà 3 mois que sa succession est ouverte. Est-ce que l'exécutif tarde à trancher au risque de créer une polémique, Paola Forteza?
Alors, je crois que c'est exactement ce qu'on a vécu avec le remaniement. Je crois qu'il faut prendre le temps. C'est des postes à responsabilité. Il faut trouver la bonne personne. Et justement, il ne faut pas tomber dans ces risques de soupçons. Donc, c'est bien de prendre le temps et pour ces décisions-là.
Alors là, pour le cas, toutes les procédures de sélection des candidats ont été mises de côté, ont été violées. C'est directement le chef de l'État qui a choisi le futur procureur de Paris. Celui-ci est sans aucun doute compétent, mais il lui faudra s'affranchir du soupçon qui pèse sur les modalités d'une telle nomination. Je rappelle qu'Édouard Philippe a déclaré à cette occasion qu'il était normal de choisir un procureur en ligne avec le gouvernement en place. Ça me pose un vrai problème de fond.
Merci beaucoup. Ce sera le mot de la fin. Éric Alt, vice-président d'Anticor. Paola Forteza, députée La République En Marche. Réalisation Hélène Avril, documentation Charles Barre, coordination Florence Ponce et Arnold. Ce débat sur l'indépendance de la justice, vous pouvez le retrouver quand vous voulez sur notre site internet www.rfi.fr.